téléspectateurs, vous.
J'ai entendu ça aux infos.
Twitter.
Les réseaux sociaux. Les faits de faire. Les faits.
Il est 9h41, dernier instant M de la semaine, mais on revient la semaine prochaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
À l'heure où Donald Trump reçoit les codes de l'arme nucléaire, à l'heure où les ruines d'Alep, ville foudroyée, rongent nos consciences, France 3 propose de revivre en archive les grands bombardements du XXe siècle, de Guernica à Hiroshima, à l'aune de deux critères qui échappent au manuel d'histoire. La bombe, dès ses balbutiements, serait arme de terreur psychologique. La bombe, dans sa version la plus destructrice, serait une absurdité militaire inutile. Bonjour Emmanuel Blanchard.
Bonjour.
Vous auriez pu titrer ce film « Aveuglement et surdité des généraux », mais non, il s'appelle « Le monde sous les bombes ». C'est le prime time lundi soir sur France 3 et ce sera après l'actu, la Madeleine et Monsieur Vandel. Bonjour Monsieur Vandel.
Bonjour Mademoiselle Sonia.
Bonjour Philippe.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
État d'urgence à Europe 1. Après publication des résultats d'audience par Médiamétrie, les salariés de la station ont voté une motion de défiance à l'encontre de leur direction, des salariés qui se disent affolés par le manque de cohérence stratégique, des choix de programmation et par le manque surtout de communication interne. Patrick de Carolis a fait appel. Hier, l'ancien président de France Télévisions a été reconnu coupable dans le volet du dossier Big Malion qui touchait nos chaînes publiques. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis, 25 000 euros d'amende et obligation d'indemniser les syndicats qui se sont portés civils dans ce procès. Camille Pascal, ancien secrétaire général de France Télévisions, a été également condamné. Big Malion, souvenez-vous, c'est l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. On est vendredi, c'est bientôt le week-end. On n'oublie pas de jouer dans l'instant M, c'est l'instant Madeleine. Je rappelle l'adresse sur laquelle vous devez vous précipiter. L'instant M, tout attaché, sans apostrophe, sans majuscule, @radiofrance.com. Alors, 1953, couronnement de la reine Elisabeth II. En quoi cet événement a-t-il marqué un tournant dans l'histoire des médias?
Et voici la reine qui apparaît. Vêtue d'un manteau d'hermine blanc, j'aperçois la traîne de velours rouge sombre. Elle pénètre maintenant à l'intérieur et c'est la fanfare.
Voilà, ceci n'est donc pas l'intronisation du président américain qui se déroule en ce moment même à Washington, c'est à Londres. C'est le couronnement de la reine Elisabeth II d'Angleterre. En quoi cet événement a-t-il définitivement marqué l'histoire des médias? L'instant M, @radiofrance.com. Monsieur Vandel, j'insiste.
Mademoiselle de Villers, vous savez qu'hier soir, c'était le troisième débat de la première socialiste.
Oui.
Et alors, je me souvenais plus sur quelle chaîne c'était, c'est dur à dire ce que j'écris. Alors, j'ai zappé en commençant par TF1.
Fin de ce journal, dans un instant, la météo des Vignes d'Elia, puis nos chers voisins, Sécanclou et section de recherche.
C'est la fin du journal, aucune allusion au débat, donc je me suis dit que je me suis trompé de jour, et je passe sur France 2.
Fin de ce journal, dans un instant, au programme court, part en mode d'emploi, alcaline, la météo avec Anaïs Baïdémir, et puis le grand débat de la primaire de la gauche, ne manquait pas aussi complément d'enquête juste après.
Et alors j'aurais dû m'en douter que le grand débat c'était sur la 2 parce que mardi vers 20h20 en plein milieu de journal donc, David Pujadas annonçait déjà le débat à venir deux jours plus tard.
Et un rappel, l'ultime débat, celui de la dernière chance, ce sera après-demain, jeudi à 20h50 sur France 2 et sur Europe 1. Voici en avant-première les images du plateau et du décor que nous envoie Annie Triboire.
Ouais, ça fait rêver en avant-première le machinot qui est en train de clouer les décors. Ça, c'était pour le débat d'hier. Mais le deuxième débat, lui, avait lieu dimanche sur les deux chaînes d'infos, BFM TV et iTélé. Et voici la manière dont BFM TV annonce la chose. Il est 16h, les gars sont déjà au taquet.
Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au deuxième débat de la primaire organisée par l'UPS en vue de la présidentielle. Il débute dans tout juste 2h à 18h sur BFM TV. En direct du studio Gabriel, à deux pas de l'Élysée, en présence de plus de 150 personnes.
Alors on a coupé, et il y a même de la musique, ils n'en peuvent plus d'attendre, ils t'annoncent ça avec 2 heures d'avance, alors le débat avait lieu à 18h, donc je suis allé voir comment la concurrence l'annonçait, notamment le 13h de TF1. Et au milieu de son JT, la présentatrice Anne-Claire Coudray parle politique, et elle fait une allusion qu'on va qualifier de pudique.
Les candidats qui vont à nouveau débattre aujourd'hui et celui qui a le plus imposé ses thèmes de campagne est sans aucun doute Benoît Hamon avec son revenu universel.
Ah, ils vont débattre, c'est le jour même, mais elle donne ni l'horaire ni la chaîne. Et j'ai attendu la fin pour en savoir plus. Justement, à la dernière minute, Anne-Claire Coudray annonce.
Et c'est la fin de ce journal après ce magnifique Zoom. Ce soir, ne manquez pas l'interview de Ryan Gosling que j'aurai le plaisir de recevoir à 20h pour le film La La Land, grand favori des Oscars.
Eh oui, un débat à gauche, ça peut engager la vie du pays pour 5 ans, mais son plaisir, c'est le beau gosse Ryan Gosling. Alors ce qui me frappe, c'est que dans un passé très 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 proche, on a connu TF1 passionné par la politique. Par exemple, pour le premier débat, c'était jeudi 12, je me les suis tous fait. 3 jours plus tôt, ils étaient sur le pont. Écoutez, Julien Arnault, il attaque dès le générique de début.
Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le 12 janvier et c'est le jour J pour la primaire de la gauche. Nous y sommes. Le premier débat, ce sera juste après ce journal.
Et là, je me suis demandé, et si les chaînes n'étaient pas totalement intéressées par l'information et par la politique, mais surtout par leur audience? Et si elles annonçaient les passionnants débats seulement quand c'était elles qui les diffusaient?
Bah voilà, c'est exactement ce que vous venez de démontrer.
Et pour en avoir le cœur net, je renverse l'eau, je suis allé voir France 2 le même jour, à quelques minutes d'intervalle. Écoutez, David Pujadas, le débat de la primaire à gauche est dans quelques minutes, mais il a d'autres chats à fouetter.
Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par en mode d'emploi. Toutes les précisions ensuite sur l'alerte en cours avec Valérie Maurice. 20h55, envoyé spécial avec Élise Lucet.
Alors je vous dis juste, l'alerte en cours, c'était une vigilance orange.
Oui, c'est
même
ça.
Pas rouge. Et puis quant au débat de la primaire, zéro alerte et pour cause. Et pour cause, pardon, c'était pas chez eux, c'est QFD.
C'est QFD. Merci Philippe. Alors nous avons un gagnant, c'est Fabrice. Ah. Bravo Fabrice qui remporte, évidemment, on l'a choisi exprès pour vous, ce cadeau, la réédition par Lina des 5 débats présidentiels de l'entre-deux-bourgs. De l'entre-deux-tours. Joli.
Vous n'avez pas le monopole du savon.
Non.
Et du lapsus.
Et du lapsus. Voilà, donc comme ça on reste dans les débats et dans la politique. Alors oui, 2 juin 1953, c'est la première fois qu'un événement de la sorte est retransmis en Mondovision, en direct à la télévision. 20 caméras dissimulées dans l'abbaye de Westminster, une cinquantaine dans les artères de Londres, 100 millions de téléspectateurs dans le monde vont voir Elisabeth II couronnée. Bravo Fabrice.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Emmanuel Blanchard, vous êtes mon invité ce matin. Le monde sous les bombes fait suite à un premier film, La France sous les bombes. Vous co-réalisez ce film avec Fabrice Saligné. Film tout en archives, raconté par le comédien Didier Beuzat. Ce sera lundi soir sur France 3. Alors, des images de la guerre restaurées, colorisées, ça, on a vraiment l'habitude. C'est la condition sine qua non d'une diffusion en première partie de soirée. Mais on ne prête pas aussi souvent attention que dans votre film au travail colossal qui est fait sur la sonorisation. Parce que qui dit bombe, dit nécessité de recréer pour vous mitraillage, sirène, moteur d'avion, hélice, sifflement, crépitement des flammes, fracas d'acier. Comment on procède ?
Eh ben, en fait, pour sonoriser ces archives qui sont quasiment toutes muettes, il y a toujours deux possibilités. Soit on essaie de bruiter les choses en les bruitant avec leur bruit. Mm-hmm. Soit ce qu'on a essayé de faire, c'était, dans certains cas, de trouver un bruit imagé. Et nous, on a vraiment, si vous y avez donc été sensible, ça me touche beaucoup, fait tout un travail de réflexion sur un bruit un peu métallique qui serait le bruit des bombes qui tombent de l'avion et de trouver des sifflements pour évoquer la terreur que suscitent les bombes, en fait. C'est ça, c'est ça l'idée, quoi.
La terreur que suscitent les bombes, 1937.
26 avril 1937. Se croyant à l'abri des regards, les officiers nazis vont s'autoriser la pire des expérimentations. À 17h, 24 bombardiers décollent pour une mission d'un nouveau type. Objectif, tester l'effet du bombardement sur les habitants d'une petite ville sans importance militaire, Guernica. 40 tonnes de bombes s'abattent sur la ville et ses 7000 habitants.
Voilà la voix de Didier Beuzat. Oui, c'est la naissance de la guerre moderne et il y a quelque chose de très intéressant dans ce film, c'est que on commence par instaurer la terreur policière dans le ciel, finalement au milieu des colonies où s'essayent toutes les grandes nations européennes avant même la guerre d'Espagne. Et ça, on le savait pas que c'était le terrain d'expérimentation en fait, et de l'aviation et du bombardement.
Oui, Emmanuel en fait, il y a une chose déjà qui est formidable, c'est de se dire que à peine on a réussi à voler. Qu'on a eu l'idée de lancer des objets depuis le ciel. Donc c'est la naissance du bombardement aérien est quasiment contemporaine de l'invention de l'aviation. Ensuite, il y avait quelque chose qui était incroyable, c'est que ça permettait de couvrir des territoires immenses. Donc on s'est dit, tiens, c'est un bon endroit. Et puis il y a autre chose, c'est que pour se comporter comme ça avec des gens, il faut vraiment pas tout à fait les considérer comme des êtres humains. Et le bombardement est d'emblée perçu comme quelque chose d'abominable. Donc jamais utilisé dans les conflits européens dans un premier temps, et utilisé sur les indigènes dans les colonies.
Voilà. Et même Hitler, on l'entend bien dans votre commentaire, se croyant à l'abri des regards, Guernica ne sera évidemment pas du tout à l'abri des regards, ce sera un cri d'alarme planétaire. Même Hitler doute finalement des effets de ce bombardement totalement inutile sur le plan militaire, mais désastreux en termes d'image pour la Luftwaffe.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, le bombardement aérien et le bombardement des civils, il est une rupture majeure dans la façon de faire la guerre depuis le début des temps. Traditionnellement, la guerre, c'est une armée qui se bat contre une autre armée. Le bombardement propose une autre façon de se battre, c'est-à-dire c'est une armée qui se bat contre des civils. Mmh. Et qui se bat d'une façon assez inégale, puisque elle risque pas vraiment autant que les gens qui sont en dessous.
Donc pour c'est Hitler, ça, c'est l'expérimentation d'une forme de guerre à distance. Oui.
Et du coup, quand on porte sur la Seconde Guerre mondiale le regard qu'on porte aujourd'hui, c'est compliqué de le sentir. Mais Hitler, c'est d'abord un militaire, et lui, il a une espèce de vision de son armée qui est une vision très honorable. Et pour lui, que son armée se compromette à aller cramer des villes, ça se fait pas du tout en 1937.
Ouais. Après, et puis ça va bien évoluer. Hein, et toute cette question, à la fois de la terreur, va être théorisée également par les Anglais sur les effets sur la population civile. Mais c'est aussi une mise en scène de la toute-puissance qui là, pour le coup, va être théorisé par les Allemands, les caméras allemandes, l'actualité, les archives de cinéma, la chevauchée des Valkyries. C'est l'emblème de la toute-puissance et de la peur qui va régner sur l'Europe. Et ça va fonctionner.
Oui. Alors, il y a dans la vision du bombardement qui est celle d'Hitler et de l'aviation allemande, il y a vraiment l'idée. Alors, c'est une distinction qui est un peu technique, mais une vision tactique, c'est-à-dire que les bombardiers sont là en appui. Il y a des troupes qui envahissent, et puis devant il y a des bombardiers qui désorganisent, etc. Et ils sont dans des visions du surhomme, etc. Donc l'avion plaît beaucoup au régime fasciste. Et la bascule, c'est que le côté allié, on va réfléchir à une autre façon d'utiliser les bombardements, qui serait une bombardement stratégique. C'est-à-dire quelque chose qui finalement est très contemporain, c'est on peut gagner une guerre sans mettre le pied dans le pays. On peut gagner une guerre juste en bombardant.
Et en même temps, vous ressortez une archive, alors à mon avis très peu connue, 1939, premier jour de la guerre, le président Roosevelt assoit la neutralité des États-Unis. Écoutez ce qu'il annonce.
Je demande solennellement à tous les gouvernements engagés dans les hostilités d'affirmer publiquement que leurs forces armées ne bombarderont pas les populations civiles ou les villes non défendues.
C'est un pacte moral, tout le monde va s'y engager, y compris les Allemands. Donc ce qui est très intéressant dans votre film, Emmanuel Blanchard, c'est que de Guernica à Hiroshima, il y a un fil rouge, c'est le dilemme moral. Peut-on massacrer les populations civiles? Et on va voir comment les freins moraux sautent les uns après les autres.
Oui, et cette mise en garde de Roosevelt est pas du tout connue, mais elle dit bien en tout cas l'espèce de panique, c'est-à-dire que à la veille de la guerre, les gens dans les grandes capitales, tous les gouvernements se disent mais qu'est-ce qui se passe si je bombarde le voisin, il va me bombarder, mais qu'est-ce qui se passe si on bombarde Paris, qu'est-ce qui se passe si on bombarde Londres, 8 millions d'habitants, les gens vont devenir fous. Il y a vraiment une très grande peur, donc ils essaient de tous se tenir comme ça.
Il y a une peur et il y a la naissance de ce dilemme, et puis vous montrez bien au fur et à mesure de la guerre. 43, les alliés débarquent en Italie. Va-t-on bombarder l'Italie? On classe les villes en fonction de leur valeur patrimoniale. Peut-on se permettre d'être ceux qui ont broyé l'un des berceaux de l'humanité? On classe en fonction de là où est le Colisée, là où sont les ruines antiques. C'est en résonance totale avec ce qui se passe en Syrie.
Absolument, ouais, il y a des dilemmes, parce qu'on sait en fait qu'on s'est pas visé, quoi. Donc qu'il faut prendre les plus grandes précautions, et donc se dire attention, on parle pas encore de dommages collatéraux, mais en réalité c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour détruire telle base militaire ou voilà. Donc ça, évidemment, il y a ces dilemmes moraux. Alors de temps en temps, par exemple, en France, ça va être, on va essayer de pas tuer trop de civils. En Italie, les civils c'est moins important, mais par contre, on a une conscience du patrimoine artistique. Mais ça c'est dans les pays amis. En Allemagne, il y a aucun dilemme moral. C'est-à-dire que c'est ça qu'on montre avec Fabrice Saligné dans ce film, c'est que le bombardement est théorisée et mise en œuvre comme une arme pour tuer des gens.
Pour tuer
pour
des
déloger
gens.
Des gens, pour tuer des villes.
Et on voit bien l'évolution des Américains, c'est-à-dire le bombardement de Dresde en 45, on dit à ce moment-là que ce sera 250 000 morts, les images sont absolument terrifiantes et pour les Américains c'est un poids moral, et en même temps quand on arrive à la guerre au Japon et qu'on voit ceux qui pilotent le Bomber Command, vous rapportez les propos de Curtis LeMay qui dit il n'y a pas de civils innocents, on met au point le napalm et on y va. On arrose, on pilonne.
Oui, il y a un programme d'année. Enfin, si vous voulez, d'une manière générale.
Il n'y a plus aucun scrupule.
Aucun scrupule. La Seconde Guerre mondiale, c'est une guerre d'anéantissement à tous les niveaux. Mm-hmm. Hein, je veux dire, et du point de vue du bombardement, ça le devient. Et si vous voulez, ce qu'on essaie de montrer, c'est que le bilan est tellement dur en Europe, est tellement impressionnant, y compris pour les alliés eux-mêmes, mm-hmm. dans les rapports qu'ils ont faits, que quelque part, ils ne peuvent pas se permettre que ça ne marche pas au Japon. Et c'est ça, là, que l'engrenage devient terrifiant. C'est-à-dire que vu qu'ils ont mis à feu à sang l'Allemagne sans vraiment que ce soit si efficace que ça, ben au Japon il faut que ça marche.
Alors justement,
donc en fait, il faut que la guerre soit gagnée.
La stratégie s'affine, l'engrenage prend une proportion terrifiante. Écoutez la théorie, écoutez comment justement on met au point la tactique du tapis de bombe.
Une première vague de bombes explosives pour souffler les toits des immeubles. Un déluge de bombes incendiaires pour faire partir une multitude de feux. Puis de nouveau des bombes explosives pour empêcher les pompiers d'intervenir. Avec l'espoir que les foyers se rejoignent pour former un incendie d'une telle intensité qu'il se transforme en une tempête de feu. Véritable phénomène climatique capable de consumer une ville entière en quelques heures.
C'est ça qui est intéressant, Emmanuel Blanchard, c'est que vous nous racontez, malgré cette surenchère technologique hein, et également militaire, vous nous racontez la Deuxième Guerre mondiale du point de vue des bombardements comme une succession d'échecs. Ça n'a servi à rien.
Alors, pour apporter un peu de nuance, évidemment que si on détruit des villes entières, etc., évidemment que ça affaiblit l'adversaire. Mais dans le fond, ça ne marche pas.
Non, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas pourquoi ? Parce que ce soit Adolf Hitler ou l'empereur Hirohito, il n'est pas question pour... Il s'en fiche. Si vous, voulez, vous pouvez tuer tous les civils que vous voulez, ils les remplaceront. Et puis, il faudra... tant que tout le monde ne sera pas mort, il y aura toujours des gens pour
Et puis, vous racontez cette lutte incessante, ce bras de fer incessant, finalement, avec le lobby militaire, avec ce que vous appelez la bombing mafia qui prendra le pouvoir à la fin.
C'est eux qui s'appellent
absolument,
comme ça. Hein.
Qui prendra le pouvoir à la fin, au moment de la naissance de la bombe H. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une foi mystique de la population dans la bombe. C'est aussi une affaire de propagande.
Oui, il y a une adhésion totale à ce projet qui a quelque chose aussi qui est un peu déréalisant. Je veux dire, on le vit tout aujourd'hui encore. C'est-à-dire que oui, on est en guerre avec des pays, mais on voit pas.
Oui.
On a. Alors à l'époque, il y avait quand même beaucoup de morts hein, dans les bombardiers, mais malgré tout, beaucoup moins que sur les champs de bataille. Donc en fait, c'est une guerre qui est très lointaine. Donc il y a quelque chose qui est un peu déréalisant, quoi. Mm-hmm. Donc les gens ont fait l'idée que on gagne une guerre sans que ça les engage vraiment est quelque chose d'assez fascinant.
Voilà, moi je vous engage à regarder ce film lundi soir 21h, le monde sous les bombes, parce que manifestement on n'a pas tiré les leçons de cette Deuxième Guerre mondiale et qu'on est au cœur de ces questions d'actualité qui rongent nos journaux télé. C'est la fin de l'Instant M. Merci à toute mon équipe, Violaine Baller, Edouane Tella, Anne-Cécile Perrin, place à Ali Rebéi. Salut Ali.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors,
ce matin on se demande à quoi sert la politesse, quelles sont les marques d'impolitesse qui vous insupportent le plus, quel rôle joue la politesse dans votre vie quotidienne. Considérez-vous qu'elle est synonyme d'hypocrisie et de convention sociale. 01 45 24 7000. Et Philippe Vandel, qui est très impoli, qui a renversé sa bouteille d'eau devant moi. Là.
Méfiez-vous des gens polis, méfiez-vous des gens polis.